14h-15h sur Europe 1, la voie est libre.
Nicolas Carreau.
La voie est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio. L'écrivain Jean Tellet vient de publier Crénom Baudelaire aux éditions Mialet Barreau. Une biographie, mais à la Jean Tellet, c'est-à-dire bien, bien décalée. Je vous fais une confidence. J'adore Jean Tellet. C'est la gentillesse faite homme. Et donc, j'ai saisi l'occasion pour lui rendre une petite visite dans sa bibliothèque. Bonjour Jean Tellet.
Et bonjour.
Merci de nous recevoir presque chez vous.
Ouais.
On est dans votre immeuble.
Ouais.
Mais votre appartement est au troisième étage.
Ouais.
Et vous avez une toute petite mini pièce au rez-de-chaussée,
ouais,
charmante.
Dans une arrière-cour, ce qui fait que le matin je pars au travail, j'ai 2 minutes et demie pour y aller, et le soir je reviens. Et ça c'est vraiment bien parce que presque, je suis très envié par mes copains écrivains qui eux travaillent à la maison. Et ça ne doit pas être agréable, ça. Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un endroit qui soit un endroit de travail.
Vous n'avez pas trop le stress des transports, quoi, le matin?
Ah non, je ne suis pas emmerdé avec ça, non.
Ça va, quoi.
Ouais.
Alors, donc, c'est une petite pièce. Les murs sont presque nus. Il y a juste une vieille photo en noir et blanc encadrée,
ouais,
avec des gamins dans une classe. C'est quoi? C'est votre...
C'est la photo de classe à Arcueil à l'école Jules Ferry. Et c'est Jean-Paul Gaultier qui me l'a donné parce qu'on se connaît depuis l'école maternelle. Et moi, je suis ici et lui, il est là. Et il a le même cadre et la même photo chez lui.
Mais il y a les blues et tout.
Ben ouais, ben c'était en 61, quoi.
Ah oui.
Et moi, je suis resté. Et là, ça tombe pas bien parce que l'institutrice qu'on voit, c'était pas celle qu'on avait habituellement, mais c'est l'institutrice qu'on avait habituellement qui nous a appris à lire et à écrire, s'appelait Madame Tappe. Et je suis resté en contact avec elle jusqu'à sa mort. Moi qui ai détesté l'école, j'ai adoré cette institutrice. Et puis même quand elle s'est retrouvée à la retraite, enfin même plus qu'à la retraite, dans une, je sais pas comment on appelle ça, un EHPAD, un truc comme ça en dessous de Toulouse, j'allais la voir moi là-bas et Jean-Paul l'appelait et
ah
tout,
oui,
et elle était super contente, super fierotte. Et,
ah ouais, elle devait faire la maline.
Je lui envoyais tous mes livres.
Retraite.
Et à chaque fois elle m'engueulait, elle me disait oui mais il y a beaucoup de gros mots. Et elle me dit, je disais pardon Madame Tappe, et elle me disait oui parce que tu comprends, ça m'embête parce que je voudrais pas que les gens se disent ah c'est comme ça qu'elle lui a appris à parler et tout, et j'adorais cette institutrice.
Et alors justement là on est quand même dans le Saint-Dessin puisque c'est là que vous créez, n'est-ce pas? Et il y a un tableau blanc Velleda.
Ouais.
Ça sert à quoi? C'est pour faire vos plans et tout ça?
Non, c'est quand j'ai... Oui, aussi. Et puis quand j'écris les pages, au fur et à mesure, je les mets...
Ah oui, il y a des magnettes.
Je les mets avec les petites magnettes et comme ça, je joue. Et puis aussi les plans, puis sur un tas de post-it, des bouts d'idées qu'il ne faut pas que j'oublie et tout. Et voilà. Et puis je voulais qu'il n'y ait rien dans mon bureau. Pas dans beaucoup de bureaux de copains et écrivains, il y a des photos, il y a des affiches. Si leurs livres ont été adaptés au cinéma, au théâtre et tout ça. Moi, je veux que ça soit un endroit vierge. Je me dis que toute la fantaisie, elle doit être dans ma tête. Elle ne doit pas être sur les murs.
Ouais, c'est une vraie page blanche, en fait.
Ouais, c'est exactement
alors,
ça.
Bon, on est là pour ça. Il y a quand même des livres, mais des livres emprisonnés.
Ouais.
Derrière des barreaux de métal.
Ouais. Et c'est
je ne peux pas y voir de symbole ou de métaphore, mais peut-être.
Non, c'est des vieux meubles tout pourris que j'avais achetés il y a une trentaine d'années. Dans un dépôt vente, et là maintenant j'aurai les moyens de m'acheter des meubles de bien meilleure qualité et neufs, mais comme depuis que j'ai ça, ça se passe plutôt pas mal pour moi, je veux pas échanger. Je me dis si j'achète des trucs super bien,
ça
si
va
ça
vous
se trouve
porter la poisse.
Voilà, ça va me coller la poisse, alors je garde ces meubles pourris, ouais.
Alors j'ouvre et manifestement à première vue c'est aussi une bibliothèque de travail. C'est-à-dire que là, vous sortez votre roman avec Baudelaire et il y a tout un tas de livres sur Baudelaire.
Ouais.
Je vois aussi quelques livres sur Montespan. Il y a vos livres aussi, d'ailleurs.
Oui, et c'est des livres que je donne aux gens qui viennent, mais comme là, je viens de finir d'écrire un roman, donc Crénom Baudelaire, je ne les ai pas encore distribués, mais je ne garde pas les livres, moi. Je me dis que c'est... Avant, quand je déménageais assez souvent, je me disais que c'était un gros problème, les déménagements et les livres, parce que putain, le nombre de cartons et tout, ça pèse un âne mort et tout, et c'est embêtant. Et je me dis que si je veux en relire, j'en trouve facilement. Et je garde en fait très peu de livres, sauf les deux livres que les deux premiers livres que j'ai achetés, c'est un livre en deux tomes de la Bibliothèque verte Sans famille d'Hector Malot.
Classique.
Alors ça a été un choc quand j'avais 8-9 ans. Et c'est moi qui jette tous les livres. J'ai toujours gardé ça. Et longtemps...
Mais je m'en souviens, vous étiez venu à Europe 1 parce que je faisais une chronique sur les grands classiques. Vous m'aviez parlé de Sans famille, ouais, avec son héros Rémi, donc qui, ouais, n'a plus de famille. Et je vous avais appris que depuis les années 90, dans les cours d'école... Quand on appelait quelqu'un un Rémi, c'était quelqu'un qui n'avait pas de copain.
Ouais.
Ça vous avait,
ouais, ouais, ouais,
sidéré et ça vous avait attristé.
Ben oui.
Pauvre Rémi.
Et moi, quand j'étais marmot à cet âge-là, bien que je n'avais pas à me plaindre de mes parents, j'aurais voulu être ce petit Rémi là, qui se balade partout en France.
Il y a de la Pléiade aussi, là. Il y a les œuvres complètes de Baudelaire.
Alors ça, ça choque beaucoup les gens. C'est
oh
que,
mon Dieu.
C'est que moi, les livres de la Pléiade, je les stabilote. Il n'y a pas très longtemps, avec ce livre-là, j'étais dans le train, j'allais je ne sais pas où, puis quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous stabilotez un Pléiade? Et j'ai dit,
c'est toujours onéreuse.
Mais oui, et puis des fois, j'écris dans les marges et tout, et je disais, c'est pas parce que c'est imprimé sur du papier Bible qu'il faut faire une génuflexion. Je veux dire, après tout, un livre, c'est du papier. Moi, je dis, mais il faut respecter les livres. Je dis, mais je m'en fous, moi. Il faut respecter le papier. Il n'y a aucune raison que je respecte du papier. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le livre. Puis c'est bien, les livres vivants comme ça. Moi, mon fils, quand il était tout petit, ça aussi, ça choquait les gens. Je le laissais, quand il avait 5-6 ans, même plus petit, faire tout ce qu'il voulait avec mes livres, faire des grands dessins, il faisait des monstres et tout. Et ça choquait les gens. J'ai dit, mais c'est bien, il faut leur foutre la paix au môme avec les livres. Il faut les laisser maltraiter les livres. Il faut qu'il y ait un rapport vivant.
Ça devient leur copain.
Mais oui, et puis je connaissais un peu Karl Lagerfeld qui lui me disait qu'il faisait le contraire. Quand il achetait un livre, il l'achetait en deux exemplaires. Un qui lisait et un qui gardait dans sa bibliothèque. Et moi, des fois, j'ai choqué aussi des gens où ils me disaient, regarde, j'ai des éditions originales, Les Misérables de Victor Hugo, dédicacées pour Bidule et tout. Et moi, je prenais le livre et je l'ouvrais. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? J'ouvre le livre. Ils disent, mais t'es fou, tu vas casser la couverture et tout. Je dis, mais c'est un livre. Putain, si on l'ouvre pas, ça sert à quoi?
Cela dit, vous avez le syndrome du stabilo, hein, parce que là, il y a un qui est stabiloté en entier.
Ouais.
Enfin, c'est pas qu'il y en a une qui vous a plu, c'est tout.
Ben oui,
alors
oui.
C'est Les Bijoux.
Ah ouais, ouais, ouais. Un des poèmes interdits par quand Baudelaire a eu son procès en 1857, il fait partie des 6 poèmes qui ont été interdits jusqu'en 1949.
À cause d'un vers en particulier?
Non, de tout l'ensemble du poème qui était considéré comme très ambigu et tout. Et pendant 92 ans, il y a eu 6 poèmes de Baudelaire interdits. Et il y en a eu 13 d'attaqués sur 100 poèmes, 13 attaqués en justice. Pour outrage à la morale publique et mise à néant des chères croyances du christianisme.
Ça vous fait peur, ça, la censure, et y compris les censures modernes?
Mais je trouve que Baudelaire, qui vivait à l'époque de Napoléon III, où tout était vraiment bien vissé, là, on y retourne. Hein, et Baudelaire, là, maintenant, il vivrait là, mais il serait en prison. Hein, parce qu'il a écrit des poèmes qui sont des poèmes qui sont des féminicides. Le vin de l'assassin, ça commence, si je me souviens bien, « Ma femme est morte, je suis libre, je puis boire tout mon soûl. Lorsque je rentrais sans un sou, ses cris me déchiraient la fibre. » et un peu plus loin, il dit, je l'ai jeté, à propos de sa femme, je l'ai jeté dans un puits, j'ai mis des pavés sur la margelle et tout ça, et le poème se termine par je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la sainte table. Ça raconte un féminicide, et où le mec est super content d'avoir buté sa femme. Et plein de poèmes, parce que Baudelaire était tellement misogyne et tout, et sadique et tout, là il vivrait maintenant Baudelaire, mais il est en tôle.
Est-ce que ça vous arrive, je ne dis pas de retenir la plume, mais d'y penser quand vous écrivez quelque chose, non, en vous disant « oh ça ».
Non, je m'en fous. Je me dis chacun son boulot. Moi, mon boulot, c'est de faire des choses. Les censeurs, leur boulot, c'est de censurer. Il se trouve que moi, je ne suis pas censeur, donc je fais ce que je veux.
Bon, ben merci beaucoup, Jean Tellet. On a fait le tour.
Merci à vous.
À bientôt. De retour en studio, toujours avec Pierre-Louis Basse qui publie « Rien n'est perdu » au Cherche Midi. Et je rappelle le titre de celui de Jean Tellet, « Crénom Baudelaire » avec un point d'exclamation, c'est chez Mialet Barreau. Et vous, Pierre-Louis Basse, elle ressemble à quoi votre bibliothèque? C'est quoi votre rapport au livre, mais à l'objet?
Avant de vous en parler, j'en profite pour saluer Jean Tellet, qui est un immense bonhomme.
Et ouais, il est super.
Que j'ai pas vu depuis longtemps et on a une belle affection tous les deux. Ma bibliothèque, elle était très très bien rangée.
Alors là,
jusqu'à le, il se trouve que je redéménage.
Vous déménagez tout le temps, ça, les auditeurs ne le savent pas, mais vous déménagez très régulièrement.
Quand j'ai écrit un livre, je m'en vais. Donc, il y a une chose nouvelle, c'est que j'ai donné beaucoup, beaucoup de livres à une librairie qui est formidable à Bernay.
Et vous faites un mouvement de délestage.
C'est vrai, c'est un peu ça, mais même avec mes meubles, enfin bon, je réduis la voilure. Vous savez, il y a un moment, un âge où il faut garder l'essentiel. Je ne croyais quand même pas que je vais donner un livre de Modiano, d'Aura Bruder, ou dédicacé par Patrick Modiano ou d'autres. Mais je garde l'essentiel, vous voyez. Et donc ma bibliothèque actuellement, elle est dans les cartons, Nicolas. Donc si vous veniez me voir, ce serait un peu dommage parce qu'elle est cartonnée.
Je peux vous aider à ranger. Hein.
Mais j'ai un peu changé. J'ai longtemps classé par désir et par. Et puis je me suis aperçu que c'était bien tout de même d'être. Par ordre alphabétique, c'est pratique quand on a besoin d'un texte, de chercher une idée ou de relire quelque chose. Donc,
Bizarrement, parce que vous avez vécu à Saint-Ouen, puis à Paris dans un petit appartement, et après vous êtes parti, maintenant vous êtes à Bernay en Normandie, dans une maison, quoi, normal. Et donc vous auriez pu avoir ce fantasme d'enfin poser une grande bibliothèque avec tous les livres de votre vie, non ?
Je ne l'ai pas, ce fantasme. Je dois dire que je ne l'ai pas. Je suis plus peut-être dans le... Non pas dans le départ ou les rangs systématiques, mais dans une forme de projet, de reconstruction. Là, je serai de nouveau dans un appartement. À Bernay aujourd'hui, mais peut-être plus loin dans quelques temps ailleurs.
Et c'est quoi votre pièce maîtresse? Celle qui vous tient le plus à cœur? Le livre le plus précieux, pas forcément d'un point de vue prestige, celui que vous gardez, quoi, qui est au centre.
C'est vache.
Qui n'est pas dans les cartons.
Oui, qui n'est pas dans les cartons. Un, c'est difficile. Donnez-moi l'autorisation.
Non, mais c'est le jeu. C'est le jeu,
c'est La montagne magique de Thomas Mann. Je vais vous dire.
Dans une belle édition ou dans une vieille édition?
Une édition normale. Non, assez normale. Que j'ai découverte la montagne magique, enfin le livre de Thomas Mann. Je devais avoir 16 ans et demi ou 17 ans. Et je crois que la force vraiment de l'écriture, du livre, c'est là que. Comment le livre. Je ne sais pas si le temps existe, mais en tout cas, les années existent. Ça fait maintenant 50 ans, oui, 50 ans. Eh bien, les personnages, je peux vous les... Mais sans aucun effort. Hans Castorp, Sainte-Ambrini, Nafta, Madame Chauchat. Voilà, c'est l'impression que ces personnages de la montagne magique...
Sont des amis.
Sont des amis et sont là, sont à côté. Et ma compagne, vraiment, leur épaisseur. Bon, il s'agit bien sûr d'un jeune homme, Hans Castorp, qui s'en va, comme il y en avait beaucoup dans les années, dans les débuts du siècle dernier, soigner des poumons. Et derrière, il y a en toile de fond, une métaphore de toute la société allemande, européenne, enfin. Et ce livre, La montagne magique, ouais. La montagne magique, elle est réellement magique parce qu'il ne m'a jamais quitté.